Nous vous invitons à écouter le 14e épisode de notre feuilleton Papillon de peine de Maurice Thibert. Quelques jours ont passé. Pimpre, quoique faible, quitte la clinique ce jour avec pour perspective un séjour à la montagne avec Ali et Roland. Quand elle quitta sa chambre, anonyme, Pimpre vacillait encore sur ses jambes. Son corps avait des doutes. Sa flamme manifestait parfois quelques effarouchements. Le petit nénuphar était mort. Elle avait craint pour lui des eaux trop confinées. Putrides, sans ces ruissellements qui épanouissent et donnent aux nourrissons ce teint fleuri et rose. Roland soutenait la libellule sous le bras. À sa gauche, le roseau la guidait de sa main. Lui étreignait le bras comme s'il éprouvait ses possibilités et son regard qui était une réponse. Pimpre lui répondait d'un battement de ses cils qui multipliait son bonheur. Ressemblait à un filet de source, aussi fluet qu'une chanson, aussi frêle qu'une feuille d'automne, et qui ne sait où se poser. Ses yeux voletaient sans cesse à la recherche d'une mélodie. On la sentait heureuse, mais sa joie manquait encore de force. Son être chantonnait, mais l'on en saisissait mal les gammes, celles qui, au creuset des géoles hospitalières, avait transpiré du silence, d'un silence dont elle seule connaissait les mots, les coloris, les êtres. C'est un effleurement qui éveilla Roland. Jérémy remuait son corps, mais doucement pour ne pas écorcher ses songes.
Il est l'heure. Tu dormais si paisiblement, sans accroc, que j'hésitais à te sortir du sommeil. Ta traversée semblait tranquille, mais des promesses attendent, et il est des rêves échafaudés qu'il ne faut point assoiffer.
Roland s'étira.
Crois-tu que la libellule et le roseau sont déjà prêts ?
J'en suis sûr. Certains jours dépassent les espérances et les nuits qui les précèdent sont blanches. Ils ont dû tous les deux alterner le sommeil et la veille pour ne point manquer l'aube et l'éclosion du rêve. Depuis que nous avons décidé de ce voyage en montagne, il ne se passe pas d'heure où je les vois inquiets, nerveux, impatients. Ils montent la garde sur nos serments de peur qu'un événement ou quelqu'un ne vienne leur voler l'espoir de voir les cimes. Le roseau se plante tous les jours devant la gravure du ruisseau de montagne qui est au mur de ma chambre. Et il me demande sans cesse: c'est beau comme ça, chez Roland ? Et je lui réponds: la réalité est là-haut plus belle que tes pensées. Allez, Roland, il ne faut point demeurer aux frontières des terres promises. Le gué est là, et il faut traverser.
Jérémy sortit. Quelques instants après sa toux matinale, et un bruit d'ustensiles, coutumier du fait, se disputèrent le silence. Au dehors, la nuit était grasse et charnue. Le jour ne donnait pas signe de vie, et l'heure à laquelle il rassemble et articule ses ossements faisait encore retraite. Pas de squelette lumineux, pas même une ombre ardée. Il était 4 heures à peine. Le ciel était une garenne dépeuplée, ni lune, ni étoile, pas même celle du berger. Un broc d'eau, une cuvette, Roland fit une toilette rapide sous le regard de porcelaine d'un mandarin ventripotent assis. C'est à Fado qu'il devait cet intrus dans son paysage quotidien et cette nouvelle habitude à prendre. Et une habitude, de plus, n'est pas chose facile à assumer quand il faut déjà les changer toutes. Roland reconnaissait que la porcelaine était jolie, mais il n'avait jamais eu, jusqu'à ce jour, dans ses fréquentations journalières, de relations privilégiées avec un mandarin. Jérémie appela par-delà la cloison.
« Le petit déjeuner est servi. »
Roland le rejoignit à la cuisine. Assis face à face, Jérémie et Roland ne disaient rien. Jérémie, parce que ces jours passés s'étaient accoutumés à la solitude et au silence des aurores, Roland, parce qu'il débutait ses journées avec labeur dans l'hébétude et que son esprit transitait un laps de temps entre la torpeur, née de la nuit, et la lucidité, fille du jour. Cette portion de temps n'a jamais appartenu à Roland et les quelques éclairs rescapés de ce moment naufragé ne lui ont offert que des contours. Jérémie le regardait. Ses yeux le passaient à l'épreuve, le criblaient de questions. Le regard de Roland fuyait n'importe où, sur le mur, sur la table ou par terre. Il le poussait aussi par la fenêtre, inconscient des risques qu'il lui faisait prendre en donnant à sa fuite son véritable sens. Un certain désarroi. Quand à nouveau, il ramenait furtivement son regard jusqu'à celui de Jérémie, les questions avaient disparu. Jérémie n'était pas homme à laisser des interrogations debout, sans soutien, à veiller inutilement la venue des réponses. Il remettait en liberté les problèmes, sachant par expérience combien hésitantes sont les foulées des solutions. Roland n'était plus maintenant confronté qu'à une seule servitude, celle de la tendresse et des flammes généreuses de Jérémie. Rien de suffisant ou d'arrogant dans ce brasier, seulement une affection véritable, humble, assujettie à la richesse intérieure de Jérémie. Sa sollicitude avait des poussées et croissait à ce point qu'elle couvrait vos nudités et habitait votre néant.
Maria rôde depuis une bonne demi-heure. Elle va, elle vient.
Elle est plus matinale que ses habitudes. Peut-être a-t-elle peur que Pimpre, encore fatigué, n'oublie de se lever.
Tu n'y es pas, Roland. Maria n'a plus autant de temps que la libellule et le roseau avant les ultimes échéances. Mais elle a plus de projets inassouvis. Et nous n'avons pas assez d'argent pour le voyage.
Veux-tu dire qu'elle aussi se voyait partir à la montagne?
Oui, mais pas réellement. Elle sait nos impossibilités et les siennes. Peut-être comptait-elle sur un imprévisible? Dans son imagination, elle a tout prévu, préparé.
il ne se déroulera pas de jour sans qu'elle ne soit avec vous, compagne de votre pèlerinage. Avec vous, elle fera un salut au sommet, entendra les clarines, reconnaîtra le cri du grand lion ailant les chiens et la tombée du jour. Elle boira un peu plus pour donner plus de vivacité et de couleur à ses images. N'as-tu rien entendu ? Il me semble qu'on a frappé.
Non. Si c'était allié avec Pimpre, on aurait distingué l'éclat d'un rire. Ce n'est pas Fado. Sa venue ne passe pas inaperçue.
Tu as raison. C'est sûrement le mal qui frappe dans ma tête. Nous ne marchons que depuis peu ensemble. Je te parlais de Maria. Son imagination est fertile, mais elle est devenue discrète. On ne peut édifier des mirages ni s'offrir des mythes impunément. Maria n'en ouvrira point la cage. Les gonds de son imagination sont rouillés et elle ne possède plus la clé de leur trappe. Ses horizons sont prêts, ses promenades organisées. Elle a élevé ses sommets, elle a peint sa mer du meilleur bleu, d'un bleu outre-mer, et mis la touche d'exotisme aux pays à visiter. Mais sa remise est trop exiguë. Aussi ses velléités migratoires, qui de temps en temps montrent le bout du nez, sont jetés le plus souvent aux oubliettes. Ah, cette fois-ci, j'en suis sûr, on a frappé. La maladie n'a pas cette manière ni cette conviction.
Roland alla à la porte et l'ouvrit. Oh, ce n'était pas le loup qui avait quitté son antre, mais Maria. Elle tendait un baluchon à Roland.
Tiens, j'ai tout préparé pour le train. Rien n'y manque.
Elle pivota, sans ajouter un mot, et repartait. Mais ses chaussures tiraient une telle langue que Roland eut pitié d'elle.
Entre, le café est chaud et t'attend.
Elle opéra un demi-tour et pénétra dans notre baraque. Jérémie avait raison. Maria avait tout prévu. Pain, œuf dur, tout ce que nécessite un voyage qui se respecte. Il y avait même une bouteille de vin et des bonbons.
Mais comment as-tu fait pour acheter tout ça ?
T'es bien un homme. Vous ne pensez à rien. Et quand les hommes sont en plus des curés, alors ils oublient l'essentiel.
Tu es sévère, Maria.
Non. Et quand je pense à tout ce que tu racontes, Jérémie, j'estime avoir raison. N'as-tu pas dit qu'il ne faut pas trop calculer, ni s'inquiéter du lendemain, que demain s'inquiétera de lui-même ? Tu as même ajouté que ceux qui se bâtissent des nids comme des oiseaux ou des tanières comme les renards deviennent si gros qu'ils ne peuvent plus passer à travers les grilles du dernier portail. Tu l'as bien dit.
Oui, je l'ai dit.
C'est comme l'histoire du grand cheminot qui conduit la foule au désert sans avoir rien organisé pour le repas. Heureusement qu'il y a des femmes prudentes pour donner à leurs fils des poissons et du pain. Sinon, que pouvaient espérer les estomacs et quel miracle pouvaient-ils faire ?
Peut-être. Le cheminot, comme tu l'appelles, a-t-il invité les gens à partager les prévisions des femmes ? Mais elle n'avait sûrement pas pensé à cela. C'est peut-être ça, le miracle.
Tu as toujours raison. Mais moi, j'ai les pieds sur terre. Roland, Pimpre et le Petit n'emporteront pas la faim dans leur musette.
Elle but son café comme si elle en mesurait la saveur.
Qui a fait ce café ?
C'est Jérémy.
Elle le toisa, une pointe de malice au bord de la prunelle de ses yeux.
Il est meilleur que d'habitude. Mais tu as encore des progrès à faire. Il faut laisser passer l'eau doucement.
Jérémy acquiesça et sourit. Maria venait de prendre sa revanche. Pour savoir ce qu'il en sera du voyage de nos amis et de leur arrivée à la montagne, nous vous proposons d'écouter le 15e épisode de notre feuilleton Papillon de peine de Maurice Thibert. Toute ressemblance avec des personnes existantes serait purement fortuite et indépendante de la volonté de l'auteur.